It was an early summer day. Seemed like company kids from out of town were in town, and for me, I was just preparing for Sunday morning services. One of Stephen's friends that was in from out of town called me and said, there's been an accident, Stephen's been hit by a car, and you need to come. I think it's pretty bad.
There was a policeman there that was directing people around, and he tried to stop my mom and I from touching him, and we said, no, he's ours.
And with all the strength I had, I remembered I had to set the record straight. And I was screaming that and pointing to him. And I said, God said the child shall not perish. He will make it through. He will do what God's called him to do, period. End of sentence.
I was speaking to Stephen and praying, but I was saying things to Stephen. Stephen, we're here for you. Stephen, God is with you. Stephen, you're going to get through this. And one of the EMTs looked up at me and in sort of the, I guess the pressure of the moment, and we all feel that. I'm not critical of him. I don't know if he was a man of faith or not. But I just remember he looked at me and he said, sir, he can't hear what you're saying to him. And I didn't want to be combative at all, but I said to him, well, the part of him I'm talking to can hear me.
So we sat in a little waiting room, and once the neurosurgeon was able to examine what was actually going on under the surface of his skull, she came in and showed us those films.
And told us what his condition was and that he had bleeding on his brain and they needed to relieve that pressure because if it pushed hard enough or far enough that it affected his brain stem, that he wouldn't have any chance to survive.
There was a group of people that just took over a whole floor at Baylor and prayed for us, you know. The neurosurgeon came to meet with us. She began to explain to me that the area of his brain that was affected by the subdural hematoma was speech. It would control his ability to use his words. It would control his right hand and the right side of his body. And she said, if he's ever able to speak again, it will be after he walks, and if he's able to walk.
By now, we're a week or two in, and we're at the point that whatever form he takes and is, we'll take that. If he can talk, if he can't talk, if he walks, if he doesn't walk, I just want to see him awake, and I want to see his eyes again. Stephen was not doing well. The ICP numbers were higher than they had been in days. I don't think either one of us were sleeping much. And about 4 or 5 o'clock in the morning, I was laying there in the dark. And finally I said quietly to Kathy, are you asleep? And she said, no, I'm not asleep. And I said, I'm going to call and just see what's going on. So I called her and she said, I was doing my paperwork at my desk with my back to Stephen. And I heard him say something. And I turned around and looked at him, and his eyes were open and he was looking at me. He's awake. He wants to see you. He's asked about you.
This is what makes the miracle of it so much greater, is that they told us he won't talk until after he walks. It's just fundamentally, scientifically impossible for him to wake up and be able to speak.
That's what I want people to take from this story. God is who he says he is, and he will do what he says he's going to do.
God is for you, who can be against you? If God is in your corner, who can stop you? Nobody, nobody, nobody. Let's give the Lord some praise today.
Et vous souhaitons la bienvenue ce matin à la suite de notre série classique. Ce matin, sur la communion de l'Esprit, deuxième partie. Si vous étiez en vacances, vous avez manqué la semaine dernière, le message est déjà sur Internet. J'aime ce témoignage lorsqu'on parle de la communion de l'Esprit, parce que nous voyons comment la communion de l'Esprit fortifie les parents. Comment c'est dans chaque aspect, le papa, la maman, sa sœur, alors que les fortifie dans leur cœur, dans leur confiance, dans les promesses de Dieu, dans l'épreuve, dans comment ils parlent, dans comment ils pensent. La communion du Saint-Esprit qui fait toute la différence. On va continuer à l'approfondir un petit peu plus ce matin. Je vais vous souhaiter la bienvenue à vous, ici à Nouvelle Vie sur place, mais aussi une bienvenue particulière à tous nos amis qui nous suivent sur Facebook Live. Dimanche matin dernier, c'est la première fois que les deux réunions, les deux prédications étaient sur Facebook Live. Et mon équipe, notre équipe de communication me disent que nous avons atteint 19 900 personnes par Facebook Live dimanche matin dernier. Alors, on souhaite la bienvenue. Et des quatre coins du Québec, Abitibi, Côte-Nord, Gaspésie, je veux dire un salut particulier à Stéphane, David, leur famille en Gaspésie, mais Paris, Kinshasa, Bruxelles, la semaine passée, dimanche passé, Paris, Kinshasa, Bruxelles, Dubaï, Kigali, Papété, Tahiti, Haïti, Port-au-Prince, l'île de la Réunion, des gens qui suivent les messages Facebook, faites-le connaître à vos amis, on pense que ça va être plusieurs dizaines de milliers de personnes bientôt qui vont vivre ces dimanches matins avec nous, vivre ces moments dans la communion de l'Esprit. Lorsque l'apôtre Paul termine, est inspiré par le Seigneur lui-même à donner le plan de Dieu pour la plénitude de vie pour chaque croyant dans l'Église de Corinthe, il termine la première épître en disant que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, les derniers mots, et mon amour soit avec vous. Et lorsqu'il écrit le deuxième épître, comme s'il y avait cette urgence de l'Esprit de Dieu, il dira, oui, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit, le koinonia de l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui permet à la grâce illimitée de Dieu de se manifester à travers nous, des hommes et des femmes tellement limités. C'est par l'Esprit que nous pouvons vivre et manifester, et exprimer et recevoir et accepter la grâce de Dieu. Et c'est par la communion de l'Esprit qu'au-delà d'un amour les uns pour les autres humain, mon amour est avec vous, a dit Paul dans la première épître. Dans la deuxième épître, il nous rappelle que c'est par la communion de l'Esprit que l'amour de Dieu est répandu. Et à nouveau, une dimension, une capacité de grâce, d'amour, de pardon, qui est seulement possible par la communion de l'Esprit. Je dirais de cette façon, nous avons tous besoin d'une nouvelle et fraîche Pentecôte. Non pas une Pentecôte dénominationnelle ou une Pentecôte particularité. Pas une Pentecôte dénominationnelle de mouvement, des gens qui disent « Ben moi, je suis pas pentecôtiste, je suis baptiste ou je suis un autre-iste. » Je ne parle pas d'une Pentecôte de dénomination. Je parle d'une expérience personnelle avec la communion de l'Esprit. Je parle pas d'une Pentecôte non plus mystique et bizarre. Je parle pas non plus avec des expériences hors de la parole de Dieu. Je parle pas non plus d'une Pentecôte qui ont rendu un certain segment du corps de Christ comme s'ils étaient au-dessus des autres, un peu élitistes. Est-ce que vous avez l'esprit que moi j'ai? Non, je parle de chaque croyant en communion avec l'Esprit. La Pentecôte était une des trois fêtes les plus importantes du calendrier du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Vous aviez cette séquence, et le mot Pentecôte veut dire veut dire 50, le chiffre 50. Parce que dans l'Ancien Testament, vous avez cette séquence d'événements où la mort traverse le pays et Dieu dit, annonçant ce qui était pour venir en Jésus-Christ, Dieu dit, vous allez mettre le sang, vous allez prendre un agneau et vous allez l'offrir en sacrifice et vous allez mettre son sang sur les portes, les linteaux de chaque maison. Et la mort va traverser le pays, mais ceux qui seront trouvés sous le sang seront sauvés. Et 50 jours plus tard, après que l'agneau a été offert et que le salut est offert et proclamé et présenté, 50 jours plus tard, Moïse reçoit sur la montagne, la Pentecôte, c'est ce qui s'élève, reçoit les plans, les intentions, les commandements de Dieu sur des tables de pierre. Maintenant, nous nous transportons 2000 ans plus tard dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Sur la croix, Jésus, l'agneau de Dieu parfait, est offert en sacrifice. Son sang est versé. Et maintenant, tous ceux jusqu'à Nouvelle Vie, jusqu'à vous et moi et le monde entier par Facebook, en 2017, chaque personne qui va tourner son cœur et accepter l'amour de Christ, le salut en Christ, ceux qui se retrouvent sous le sang sont sauvés. La mort passe, mais la mort est vaincue et nous sommes sauvés. Et maintenant, voici la Pentecôte. 50 jours plus tard, alors qu'ils sont en prière, le jour de la Pentecôte, ils viennent du ciel comme celui, bruit comme celui d'un vent impétueux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et les lois, les commandements, les intentions, la volonté de Dieu n'est plus révélée sur des tables de pierre. Elle va maintenant être écrite sur les tables de nos cœurs. Dieu va venir écrire ses intentions, ses plans, ses désirs pour nous. Et c'est ce que le prophète avait vu. Ézéchiel, 700 ans auparavant, l'avait vu, l'avait capturé prophétiquement. Dans Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 30, il décrit l'expérience véritable de la Pentecôte. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai le cœur de pierre. » Ce n'est pas un événement d'une fois, c'est un processus de vie si tu laisses Dieu agir. « Et je vous donnerai, je vais enlever le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » L'expression hébraïque, c'est un cœur qui est imprégnable, comme un ciment mouillé que tu peux mettre ta main dedans et y laisser une trace. Dieu dit, par la communion de l'Esprit, seulement allez-vous me rendre, va-t-il être possible pour moi de mettre mon doigt sur votre cœur, de mettre mon empreinte, l'empreinte de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. Et ça ne s'arrête pas là. Voici l'expérience de Pentecôte. « Je mettrai mon esprit en vous et je vous rendrai capable de suivre et de pratiquer mes commandements et mes ordonnances. » C'est pas seulement que tu vas les connaître, ce que tu ne connaissais pas avant, mais il va te rendre capable de jour en jour de les accomplir. Alors vous allez habiter dans le pays que je vous avais promis. Alors je vais vous délivrer de vos souillures. Alors j'appellerai le blé et je le multiplierai. Et alors vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. C'est ce genre de relation-là que je vais avoir avec chacun de mes enfants. Le cœur nouveau, le cœur lourd et libéré. Le cœur de peur devient un cœur de paix. Le cœur qui était réduit, quelles que soient les causes, les deuils, les souffrances, le cœur qui était réduit devient un cœur qui est renouvelé. Le cœur qui était éteint recommence à s'élargir à l'amour de Dieu. Je vais mettre mon esprit en vous. Je vais vous rendre capable, la connaissance de ces standards, mais la capacité spirituelle pour les accomplir. Je vais vous délivrer et je vais vous bénir. C'est ce genre de relation-là. C'est ça que signifie que vous allez être mon peuple et je vais être votre Dieu. C'est pas, tu vas venir à l'église, tu vas faire quelques prières et ta vie ne change pas, les choses sont pas mal pareilles. Non, 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 non. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, Dieu qui me rend capable, la bénédiction qui coule en moi, les souillures qui tombent de moi de jour en jour, de décennie en décennie. Je suis son enfant, il est mon Dieu et nous sommes en communion avec son esprit. Quelqu'un ne dire amen, c'est ça que Dieu a pour toi. Dites à quelqu'un près de vous, c'est ça que Dieu a pour toi. Dites ça à quelqu'un près de vous. Alors, on regarde dans notre texte ensemble, on a choisi dans les Épîtres aux Corinthiens, il y a plusieurs portraits de la communion d'esprit. Et nous regardons ensemble à notre texte. On a fait un pas la semaine dernière, un pas cette semaine. Bon, on va faire un pas dans le troisième et dernier message classique sur la communion d'esprit. Mais 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, que ne sont pas montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est par l'Esprit de l'homme qui est en lui, sagesse, connaissance, expérience, expertise, éducation. Mais de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Par la communion de l'Esprit, on a vu la semaine dernière, si vous n'avez pas vu le message, allez sur le site, il est là déjà. Par la communion de l'Esprit, je peux connaître surnaturellement ce que mon œil ne voyait pas auparavant. Dans chaque aspect de nos vies, et comment on est dans la semaine, en dimanche, puis la dernière cette semaine, la semaine du 24e anniversaire de l'Église Nouvelle-Vie, et seulement l'Esprit pouvait voir à l'avance ce que Dieu avait. Personne d'entre nous, lorsque les débuts de Nouvelle-Vie ont pris place, une photo qui va apparaître à l'écran, des débuts de Nouvelle-Vie jusqu'à aujourd'hui, lorsque les nouvelles vies ont commencé, personne ne pouvait imaginer, personne. J'avais 30 ans, premier pastorat. J'avais jamais été pasteur principal auparavant. Un petit groupe de personnes, aucun d'entre nous ne pouvait voir, notre cœur ne pouvait pas imaginer que Dieu non seulement ferait une œuvre ici, mais que cette œuvre deviendrait un sujet d'encouragement. C'est l'œuvre de Dieu, c'est vous. C'est l'œuvre de Dieu à Longueuil. C'est ce que Dieu a fait ici, dans la province de Québec, à travers l'Église Nouvelle-Vie, qui m'a ouvert les portes des nations, qui a fait en sorte qu'à travers le monde, j'ai été invité, je suis invité à aller apporter la parole, des conférences de pasteurs, de leaders partout. C'est à partir du fruit d'ici, où des gens partout dans le monde, dans des endroits difficiles, disent, si Dieu l'a fait là, au Québec, Dieu est capable de le faire pour nous aussi. C'est ce qui m'a amené dans plus de 35 pays du monde. C'est ce qui a amené un petit kid, un pasteur québécois, qui avait 30 ans à l'époque, qui l'a amené du quartier Saint-Michel à Montréal, dans 35 pays du monde, des Philippines au Népal, du Bangladesh à l'Europe, France, Suisse, Belgique, Irlande, Égypte, Israël, Île-de-la-Réunion, Abidjan, Côte d'Ivoire. Des moments parfois où j'étais là, Seigneur, que personne n'aurait pu connaître ça. Lorsque j'étais avec Pasteur Mark et Pasteur Gary Wilkerson en Côte d'Ivoire, à Abidjan, ça reste sur cette photo-là un instant, 4000 pasteurs qui venait d'une quinzaine de pays partout. Ça, c'est la photo des trois rois mages. est-ce qu'on n'est pas beau dans nos habits africains? Est-ce qu'on n'est pas... Que tous les Africains disent yes! On est beau, mais on est pâle. On prêchait 8 fois par jour. Et quelques temps plus tard, au Congo, Kinshasa, un des grands moments des dernières années pour moi, si on regarde les prochaines photos, avec plus dans une cathédrale à Kinshasa, avec 10 000 pasteurs. Apporter la parole à 10 000 pasteurs qui venaient d'une quinzaine de pays africains. Qui aurait vu? L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Le cœur de l'homme ne peut pas imaginer les choses que Dieu avait préparées pour nous. C'est l'histoire, c'est le fruit de nouvelle vie qui me permet... qui ouvre ses portes pour aller apporter là. Et sur, j'ai demandé de mettre cette photo parce que j'ai vécu un moment très puissant et un moment prophétique. Alors que j'étais à Kinshasa, on a prêché des journées entières et c'est quelque chose d'avoir, je pense que c'est un avant-goût du ciel, non seulement de prêcher, mais d'avoir, à la fin des messages, il y avait des moments de prière, nos amis, nos frères et sœurs africaines ont toutes sortes de qualités dans le spirituellement, ils savent, entre autres choses, savent prier. Et lorsque tu as 10 000 pasteurs, pasteur et épouse qui prient. À un moment donné, j'étais à genoux sur l'estrade et à la fin, le message était terminé pendant de longues heures. 10 000 voix qui s'entremêlaient en intercession et en prière, comme si j'entendais un avant-goût du ciel. Et j'étais là sur l'estrade et j'étais juste rempli de reconnaissance, puis aussi de juste amazement. Juste, Seigneur, comment d'où tu m'as pris, d'où tu nous as pris, puis je me retrouve ici aujourd'hui. Puis il y avait un homme qui était là, un pasteur, qui est un homme pour lequel j'ai une admiration extraordinaire, le pasteur Jacques Verneau, qui est maintenant avec le Seigneur. Puis la prochaine photo avec Gary Wilkerson et l'homme au milieu, c'est le pasteur Jacques Verneau. Et le pasteur Jacques Verneau, c'est un pionnier. Il a été plus de 40 ans là-bas, au Congo. Et c'est un homme prophétique, un homme qui est arrivé là-bas et un homme humble, mais rempli de l'onction, de la puissance de Dieu, des signes, des prodiges. Et a commencé avec une église et un réseau. Maintenant, là, il est à la retraite quelques mois, on ne savait pas, mais quelques mois avant qu'il s'en aille être avec le Seigneur et a implanté plus de 1000 églises au Congo sous son ministère, un ministère apostolique. Et lui était là, il avait mis sa bénédiction sur la conférence. Et pendant toutes les premières jours de la conférence, les gens me disaient comment c'était un homme dans l'humilité, mais avec des paroles prophétiques, avait déclaré des choses au fil des années que personne ne pouvait imaginer, mais qui avait pris place. Et à la fin de la dernière réunion, alors que le moment que je l'ai mentionné, je suis à genoux sur l'estrade, et puis les gens prient, puis moi je suis juste perdu avec Dieu, du Seigneur, c'est tellement extraordinaire tout ce que tu as fait. En descendant, c'est un monsieur, c'est pas un monsieur Internet, Facebook, Instagram, c'est un monsieur d'une autre époque, puis il avait sur une feuille mobile, il m'attendait au bas de l'estrade, puis je dis, oui, Pasteur Jacques, puis il me dit, écoute frère, il dit, pendant que je te regardais prier, avec tous les frères, Dieu m'a donné une parole, puis moi, il dit, à rendant mon âge, je veux pas me... Alors, il dit, j'ai juste écrit la parole que le Seigneur m'a donnée, puis il dit, est-ce que je peux t'a donner? Croyez-moi, cette feuille mobile-là, je l'ai encore aujourd'hui. Je vous l'offre à vous parce que c'est nous tous. Il m'a écrit ces mots, « Tu as laissé l'Esprit faire son œuvre, et il a bâti une église qui t'ouvre les portes des nations. Mais tu as encore beaucoup de rêves et de fardeaux pour ta nation. » Et le Seigneur te dit, oui, J'ai fait de grandes choses. J'ai établi mon témoignage par vous dans les nations. Mais je vais accomplir les plus grandes choses dans votre nation. Tu t'es donné à ma maison partout dans le monde, mais je vais bénir et multiplier ta maison. Attends-toi à ce que la gloire de la prochaine maison ici à Nouvelle-Vie sera plus grande que la précédente. Et moi, je m'arrête un instant. Vous arrêtez avec moi un instant cette semaine du 24e anniversaire pour dire, Seigneur, merci pour la gloire précédente, mais nous déclarons prophétiquement par la communion de l'Esprit que la gloire suivante de salut et d'impact et de miracle et de transformation et de vie changée pour Christ va être encore plus grande que la précédente dans le nom de Jésus. Notre œil ne peut pas le voir, notre cœur ne peut pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu avait fait, mais ce que Dieu va faire va être encore plus grand dans le nom de Jésus. Et tout le monde de Nouvelle-Vie dit Amen et acclamez. Poussez un cri et acclamez le Seigneur avec moi. Allez, allez, on va enseigner là pendant un instant. Par la communion de l'Esprit, je peux connaître surnaturellement. Et ce matin, une deuxième pensée, tout aussi importante, hautement négligée, hautement sous-estimé dans notre compréhension de l'œuvre de l'Esprit en nous, mais ouvrez vos cœurs pendant un moment ce matin, parce que par la communion de l'Esprit, non seulement je peux connaître surnaturellement, mais je peux communiquer surnaturellement. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, le cœur de l'homme ne peut pas concevoir les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Elles sont révélées par l'Esprit. Verset 13 de 1 Corinthiens 2, et nous en parlons, nous communiquons, nous en parlons. Non avec les discours de la chair, de la sagesse et de l'expérience humaine, mais avec le langage, avec les paroles, avec la communication, avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des réalités spirituelles. Et nous en parlons, non avec les discours de la chair, de la sagesse, de l'expérience humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des réalités spirituelles. Alors, première question du message ce matin. Avez-vous déjà prié, Seigneur, enseigne-moi à parler? Selon ton esprit, parler surnaturellement. Apprendre à parler comme un chrétien. Paul n'adresse pas ici une espèce de langage chrétien, un peu cliché. Parfois, vous savez, on parle chrétien et c'est un langage que même pour ceux qui arrivent à l'Église ne comprennent même pas de quoi on parle. On ne parle pas ici d'apprendre une série de clichés de mots qui fait qu'on se comprend entre nous et que ça prend un interprète pour que le monde normal nous comprenne. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, alors j'ai 17 ans, je n'avais jamais été dans une église évangélique de ma vie. Ça m'a pris du temps. Pourtant, c'est une église francophone, mais ça m'a pris des années pour comprendre le langage. Je faisais semblant que je comprenais, mais des fois, je ne comprenais pas du tout. Il y avait toutes sortes de mots que je ne comprenais pas du tout. Les gens, par exemple, parlaient beaucoup à cette époque-là, chrétiens évangéliques au Québec, ils parlaient beaucoup des païens. Ah, les païens. Ah, ça, c'est de la musique païenne. Ça, c'est un film païen. Les païens. Je me souviens, j'étais allé voir dans le dictionnaire païen. C'était des barbares qui dévorent des enfants. Je me disais, ouais, on sait qui les. Mais païen, comment païen? Ah, ça, lui, c'est un païen. C'est un païen? Le mot « ouin », tu sais, onction, « ouin », c'est très utilisé. Il disait, ah, oh, ça, c'était « ouin » à matin. C'était « ouin ». »« Ouin, 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 ouin. » C'est quoi « ouin »?« Ouin ». Et un des moments les plus traumatisants, c'est lorsque, à la fin d'une réunion, il y avait une belle petite gare. J'aimais ça, m'assois souvent, c'était une petite église, mais je m'assois souvent en arrière d'elle parce qu'il y avait une petite grand-maman, elle avait les cheveux blancs, elle était belle, elle chantait, c'était, je me sentais saint lorsque j'étais en arrière d'elle. J'étais comme sous la couverture de Dieu quand j'étais derrière elle. Et puis un jour, ils ont dit, tournez-vous et serrez la main à quelqu'un près de vous. Puis elle s'est tournée vers moi avec ses beaux yeux bleus, une vraie ange sur terre. Puis elle m'a dit, elle dit, jeune homme, es-tu lavé dans le sang de l'agneau? C'est une initiation ou quoi? Non, on ne parle pas de langage, un paquet de mots. Dites à la personne près de vous, parle donc normalement. Dites ça à la personne près de vous. Non, on ne parle pas de ça. Puis je ne parle pas non plus de remplacer certains mots pour d'autres ou d'apprendre des clichés que des fois, on ne sait même pas trop qu'est-ce qu'on dit nous-mêmes. Avec un sourire, je me souviens d'un moment où on demandait des fois aux enfants, ma fille était jeune, elle était toute jeune, et puis on priait à la table. Je disais, là, tu veux-tu prier pour la nourriture? Et puis, OK, papa, c'est ma prière. Seigneur, bénis cette nourriture, sanctifie-la pour nos corps. Puis tant qu'elle dit ça, je me suis dit, wow, sanctifie-la pour nos corps. La deuxième fois, troisième fois que je lui demande à prier, trois semaines plus tard, Seigneur, Bella prie de la nourriture. Seigneur, bénis cette nourriture, sanctifie-la pour nos corps. Je dis, Bella, tu es en train de manger. Sais-tu ce que ça veut dire, ça, sanctifie-la pour nos corps? Elle dit, non, mais mange, papa, mange. C'est pas grave. Non, on parle pas de clichés qu'on comprend pas nous-mêmes. On parle pas d'arrêter quelques sacs pour juste apprendre des mots. La première question, avez-vous déjà prié, Saint-Esprit, apprends-moi à parler. Je veux parler surnaturellement. Deuxième question, pouvez-vous imaginer la révolution dans vos familles, les couples, les enfants, dans les milieux de travail, dans nos amitiés, dans nos relations, dans l'église, dans les petits groupes, entre les églises, si chaque chrétien priait, Seigneur, je veux apprendre à parler selon ton esprit, selon tes plans, selon ton standard à toi. Et la troisième question, connaissez-vous le standard de Dieu pour chaque chrétien dans nos paroles? Oui, il faut que tu arrêtes de dire tel sac, tel sac, tel sac, t'as plus le droit de dire ça, t'as plus le droit de dire ça. Et dans toutes les cultures, les sacs sont différents. Quand tous les amis français qui viennent ici ne comprennent rien à nos blasphèmes. Parce que vous comprenez que lorsque vous dites tabernacle à la façon québécoise ou calice à la façon québécoise, les amis français ne comprennent rien. Ça, je dis absolument pas. Un chrétien ne devrait absolument pas continuer à sacrer comme ça, mais la profondeur de l'œuvre de comment parler comme un chrétien, eh bien, au-delà de ça. Ma pensée est celle-ci. C'est qu'il y a bien des gens qui ont arrêté de dire calice et tabernacle et qui sont chrétiens depuis longtemps et qui ne parlent pas du tout selon le cœur de Dieu. Personne n'a dit amen, mais c'était vraiment bon, ce petit bout-là. Puis sur Facebook Live, il y a du monde qui dit « Oh, parce que là, on a dit calice et tabernacle. » Non, non. Non, c'est pas ça. C'est que j'aimerais vous amener au standard de Dieu. Juste dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Le standard, connaissez-vous? Le standard, c'est quoi parler surnaturellement? C'est quoi parler selon le cœur de Dieu? C'est quoi la communion de l'Esprit? Pourquoi avons-nous besoin de la communion de l'Esprit? Vous dites, non, moi, je suis correct. Je me trouve bien mieux que d'autres. J'ai arrêté de sacrer. Je fais pas de... vous commencez déjà à relaxer, puis vous dites ça, ce message-là, pour quelqu'un d'autre. Non. Éphésiens 4, 29, 30, qu'il ne sorte... Laissez le standard de Dieu être élevé devant vous et dit, Seigneur, j'ai besoin de la communion de l'Esprit. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, si tu es pour parler, qu'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, qui bâtissent et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Wow! N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors, il y a un choix au quotidien. Est-ce que je vais apprendre de l'Esprit ou est-ce que je vais attrister l'Esprit? Regardez bien comment c'est sérieux pour Dieu dans les versets suivants. Que l'impudicité, toute espèce d'impureté, Éphésiens 5, 3, 4, impudicité, toute espèce d'impureté, la cupidité, ne soit même pas nommée parmi vous, ne soit pas dans vos paroles comme il convient à des croyants, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. On ne parle pas ici d'un mot, on ne parle pas de rire, de sourire, d'avoir de l'humour. On parle de vulgarité, parle de grossièreté, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Le standard de Dieu est d'apprendre à parler selon son esprit. Moi, ces deux versets-là, c'est une quête de vie. Lorsqu'on parle de communiquer une grâce, on parle de paroles qui sont qu'on n'entende pas, de paroles qui sont déshonnêtes ou insensées ou grossières ou vulgaires, au contraire au plan et à la bonté et à ce que Dieu désire pour nous. Et la pensée, peut-être, qui ne vous a jamais frappé, qu'il n'y a pas seulement l'impudicité ou toute espèce d'impureté ou la cupidité qui attriste l'Esprit de Dieu, mais nos paroles aussi. Il y a plusieurs années, j'étais dans un finissant une conférence de pasteur entre deux sessions, juste un lunch, quick lunch, entre deux sessions comme traducteur de David Wilkerson. Et lorsqu'on s'est assis entre les deux sessions, puis avait apporté un message le matin extraordinaire sur nos cœurs devant Dieu, puis il y avait un temps d'appel de tous les pasteurs, plusieurs pasteurs en avant. Moi, j'avais été touché alors même que je traduisais le message. Et on s'en va dîner, c'est un peu comme un changement de température, mais on va retourner dans la réunion l'après-midi. Bon, moi, je m'assois à la table et lui arrive et s'assoit. Et j'étais saisi. J'étais mal à l'aise parce que les pasteurs, c'est comme si la réunion n'avait pas eu lieu. Ils parlaient vulgairement, parlaient en critiquant un, en critiquant l'autre, en se moquant d'une église, en se moquant d'ici, en se moquant de ça. C'était très, très bas. Puis j'étais assis là, dans une autre nation, puis j'étais assis là très mal à l'aise. J'étais mal à l'aise moi-même, mais je regardais du coin de l'œil et je connaissais le pasteur Wilkerson, qui lui était assis là, et puis il avait l'air extrêmement mal à l'aise. Et tout à coup, pas fait d'éclat, pas du tout levé la voix, mais ils amènent les menus, on avait les menus devant nous, puis lui s'est levé. Il a dit, I'm sorry, brethren, I have to go. Je m'excuse, mes frères, je dois m'en aller. Je dois quitter. Et puis, et il a dit, puis il dit, have a good lunch, puis on se voit cet après-midi. Puis il n'a pas juste dit, il s'est mis à marcher, il est parti. Et moi, j'ai dit, moi, j'étais avec lui. Alors, je suis parti. Alors qu'on sortait ensemble, je dis, pasteur, what happened? He says, I could feel the grieving of the spirit. Faire sentir l'esprit être attristé. C'est-à-dire, l'Esprit est attristé. La communion du Saint-Esprit, ce n'est pas juste des cloches et des sifflets.
La communion du Saint-Esprit va t'amener à avoir le cœur de Dieu, à cette place où est-ce que tu ressens ce qui est important, ce qui est grave, ce qui est sérieux pour Dieu, que tu comprends que la mort et la vie est au pouvoir de nos paroles. La mort et la vie au pouvoir de nos paroles. Proverbe 18, 21. Savez-vous que plus que ça, je vous ai donné un devoir la semaine dernière. Peut-être qu'il y en a qui l'ont fait. J'espère que vous l'avez fait d'aller dans les Actes et de traverser où ce qu'avait le Saint-Esprit. J'en donne un cette semaine. On pourra prendre quelques semaines pour le faire. Si vous traversez les proverbes, juste les proverbes, vous allez trouver plus de 100 versets. Vous allez chercher le mot bouche et langue et parole. Et vous allez trouver plus de 100 versets qui nous dit que la vie, à tous les jours au quotidien, la mort et la vie au pouvoir de nos paroles. La mort ou la vie dans le couple, tu donnes la mort, tu donnes la vie à l'amour, à la confiance, à la joie, à l'atmosphère, à l'engagement par tes paroles, à la mort ou la vie dans la famille, mort ou la vie dans nos relations, parents avec les enfants, enfants avec les ados envers leurs parents, la mort ou la vie d'une amitié, la mort ou la vie au travail, de ta carrière, de ton avenir, la communion de l'Esprit qui renouvelle nos cœurs. Renouvelle nos cœurs parce que Jésus a dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Remarquez comment le Seigneur Jésus, on a tous déjà dit des choses au-delà de nos pensées, par colère ou par... c'est arrivé à tout le monde. Mais il y a quelque chose, par exemple, que Jésus adresse lui-même. Jésus pulvérise l'espèce de justification, de rationalisation de gens qui ont des paroles qui sont méchantes, des paroles qui blessent, des paroles qui déchirent et qui vont dire, ben ouais, donc c'est pas grave, tu sais bien que je prends pas ça au sérieux, tu sais bien que je suis comme ça, c'est pas grave, prends pas ça au sérieux, tu sais bien que je pense pas ça, ça c'est ce que je dis, mais c'est pas ça que je pense, j'ai toujours été comme ça, c'est pas grave, ça sort tout seul, c'est pas moi, ça c'est juste des paroles que j'ai dit, attache-toi pas à ça, arrête donc d'être si sensible. Jésus pulvérise ça. L'espèce de dissociation. Mon cœur, il est parfait, c'est juste que des fois, mes paroles sont... Ce n'est pas Luc, chapitre 6, verset 43. Un bon arbre ne porte pas du mauvais fruit. Un mauvais arbre ne porte pas du bon fruit. Chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et on ne récolte pas des raisins des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor, du trésor de son cœur. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, je ne peux pas pour le reste de ma vie dire, « Ah, c'est pas grave, mon cœur est bon, moi, je suis un chrétien, j'aime le Seigneur, mon cœur est bon, mais je blesse, mais j'attaque, je détruis, je critique, je diminue, je dénigre. » Non, non, tes paroles révèlent ton cœur. La communion de l'Esprit, c'est « Seigneur, viens transformer mon cœur, viens écrire tes lois sur mon cœur, tes importances sur mon cœur, tes paroles sur mon cœur. Réapprends-moi à parler. » De l'abondance du cœur, la bouche parle. Il y a quelque chose qui est hallucinant. C'est une poursuite de vie pour chrétiens sérieux, pour chrétiens intègres qui disent, moi, je veux vraiment marcher pas comme Christ. Ça dit dans 1 Samuel 3:19 que Samuel ne laissa aucune de ses paroles tomber par terre. Et vraiment, le verset au complet dit ceci. Samuel grandissait, il maturait, l'Éternel était avec lui et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Il poursuivait. C'est un standard qui est hallucinant. C'est un modèle, une poursuite de vie, de dire, « Seigneur, aide-moi chaque jour. Je suis bien imparfait. Mais par ton esprit, aide-moi à ce que ce qui sort de ma bouche soit des paroles de vie. » Partout. Sous pression, de tous les côtés. Paroles de vie, paroles qui encouragent, paroles qui édifient, paroles qui rappellent les bonnes choses, paroles qui rappellent les qualités des gens autour de nous, paroles qui rappellent la fidélité de Dieu, paroles qui détendent l'atmosphère, paroles qui désamorcent, paroles qui soulignent le positif, paroles, personne ne dit amen à ça, je trouve que c'est une bonne séquence, paroles qui éteint des feux, paroles qui bâtissent des vies, paroles qui valorisent, paroles qui prophétisent, paroles qui est sensible et rapide à demander et à accorder pardon pour nos paroles. Moi, lorsque j'ai lu ça, les premières fois, même depuis des années jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que je passe devant Samuel dans mes lectures bibliques et que je lis Samuel, laisse tomber aucune de ses paroles par terre, je dis, OK, ben moi, Seigneur, j'en échappe. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'en échapper une? Il y a juste 4 personnes à qui c'est déjà arrivé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'en échapper une? Ah, la Bible dit, c'est pas... C'est, que ton cœur ne te condamne pas. Voici, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on en échappe une? À mon épouse, à quelqu'un au travail, à mes enfants, à quelqu'un à l'église, j'en ai échappé une. J'ai dit que ça a sorti, j'ai une parole qui n'est pas... qu'est-ce qu'on fait lorsque j'en échappe une? Samuel n'a pas laissé tomber aucune parole par terre, mais moi, j'en ai échappé une. Je dois reconnaître. Je demande pardon, sans blâme, sans rationalisation, sans projection sur l'autre, sans justification. La communion de l'Esprit nous aide à vaincre notre orgueil et à juste dire, j'aurais pas dû dire ça, je te demande pardon d'avoir dit ça, mais pas seulement je reconnais, je refuse de continuer à banaliser et à blesser. C'est pas grave, c'est grave, c'est sérieux. Je veux rechercher le seul fruit de la vraie repentance, c'est-à-dire le changement. Alors, c'est une autre bonne question. C'était quand la dernière fois que vous avez demandé pardon à quelqu'un pour une parole que vous avez dite? Je demande pardon. Vraiment, là, je demande pardon. Il y en a que ça fait votre vie complète que vous ne l'avez jamais fait. Ou des années entières. Puis on arrive à l'église, puis on chante, et on fait des cantiques, et on célèbre le Seigneur. Dieu dit, je veux t'amener à un niveau de communion avec moi, où tu vas reconnaître, tu ne banaliseras plus, tu vas rechercher, tu vas refuser de continuer comme ça. C'est pas... Il y a des gens qui ne demandent jamais pardon, mais il y en a d'autres qui demandent pardon tout le temps parce qu'ils n'ont aucune intention de changer. Je reconnais, je refuse de continuer à banaliser et à blesser. Je recherche le seul fruit de la repentance. Je réalise le mal qui est fait et les racines profondes qui influencent nos paroles. Un des textes les plus extraordinaires à ce sujet est dans l'Épître de Jacques. Le frère de Jésus a écrit sur la langue. Et les versets apparaissent à l'écran. Il me reste quelques versets avant la fin du message. Juste laisser l'Esprit de Dieu faire son œuvre dans nos cœurs. Dans Jacques 3, il dit, « Voici même les navires qui sont si grands et poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, mais comme un petit feu, elle peut embraser une grande forêt. La langue est un feu. » La langue est placée parmi les membres, souillant le corps, enflammant le cours de la vie. La langue est un feu. Puis il va même, Jacques va à une place qu'on dit, mais moi, franchement, est-ce qu'il exagère? Est-ce qu'il était... Non, la langue peut même être enflammée par la géhenne, par être inspirée par l'ennemi lui-même, par Satan lui-même. Jacques, chapitre 3, verset 13, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre par une bonne conduite la douceur de sa sagesse. » Si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Manquez pas ceci, ça peut changer votre vie. Cette sagesse, elle ne vient pas de Dieu, elle ne vient pas d'en haut. Elle est terrestre, charnelle et diabolique. Il fait un contraste, il donne une révélation. Il dit littéralement, ta langue peut donner la vie, ta langue peut donner la mort, ta langue peut enflammer tellement de choses. Et pensez-y une seconde. Des mariages se sont enflammés et ont été consumés à cause des paroles, des vies, des familles, des entreprises, des églises, bien sûr, des mouvements d'église, l'œuvre de Dieu. Et il ouvre le miroir, il commence Jacques en disant, je vais vous présenter un miroir. Et il parle de croyants qui ont un zèle amer. C'est pas un inconverti qui ne connaît pas Dieu, mais il y a un zèle qui est amer. Il dit, mais Dieu, il y a un zèle pour Dieu, mais il y a un esprit de dispute. Il dit, ne te glorifie pas, ne te mens pas, ne mens pas contre la vérité. Ces paroles-là, ce zèle-là, cette amertume-là, qui sort de ton cœur et qui s'exprime dans tes communications, ne vient pas d'en haut. Et là, il parle d'une progression. Il dit, elle est terrestre, cette fausse sagesse, ses paroles de mort sont terrestres, elles sont charnelles et elles sont diaboliques. Manquez pas ceci. Elles sont de la terre. C'est de notre humanité d'avoir des paroles qui vont faire du mal. Et quel que soit comment vous avez été élevé, comment vous avez été éduqué, il y a des gens qui sont ici, les paroles qui ont été prononcées sur vous, le niveau. Lorsqu'on rencontre des gens dans la banque alimentaire à Action, lorsqu'on rencontre des jeunes au 21-59, le niveau avec lequel on leur a parlé, le niveau, la bassesse du niveau des communications, la bassesse du niveau des communications sur Facebook ou sur Instagram ou partout ou sur Twitter, la bassesse du langage. On grandit là-dedans. Ça, c'est terrestre. C'est notre nature qui est orgueilleuse, qui est insécure, qui est rancunière. Ça passe rapidement du terrestre au charnel. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que le terrestre ou le charnel, dans la vie du croyant, s'il n'est pas placé sous le Saint-Esprit, peut carrément devenir diabolique. Peut devenir à travers toi l'œuvre diabolique et pas seulement dans une séance vaudou en Haïti ou dans des messes sataniques, mais des paroles qui accusent, des paroles qui défont, des paroles qui blessent, des paroles qui déchirent. Il y a seulement deux esprits en opération dans ce monde, l'esprit de l'accusateur et l'esprit de l'avocat. La Bible dit de Satan, une des descriptions les plus puissantes et véridiques de son œuvre, voici Satan dans l'Apocalypse, et l'accusateur des frères qui accusent jour et nuit, accuse jour et nuit. Mais voici, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, et lui, il intercède en faveur des saints. C'est le choix du croyant. De quel esprit vais-je être animé? Esprit de l'accusateur qui abaisse, ou vais-je être animé, mon Dieu, la communion d'esprit? Je veux être animé de l'esprit qui donne la vie, de l'esprit qui intercède, de l'esprit qui défend, de l'esprit qui aime, de l'esprit qui bâtit des vies. L'esprit, la communion de l'esprit, c'est la marque absolue de quelqu'un qui vraiment... rencontre Dieu, arrive à une nouvelle rencontre fraîche avec Dieu, en communion avec l'Esprit de Dieu. Ésaïe chapitre 6, j'ai vu le Seigneur. J'ai vu le Seigneur. En toute sa hauteur, savez-vous, une des premières choses qui est arrivée, le Seigneur a dit, qui ira pour moi, je vais t'envoyer. J'ai besoin d'envoyer quelqu'un, comme il dit encore aujourd'hui. Ésaïe dit, Seigneur, je suis un homme aux lèvres impures. Tu veux que je proclame ton message, mais dans toutes sortes de façons, mais dans mes paroles, je fais du mal. Je suis un homme aux lèvres impures. Un croyant qui dit voir Dieu, avoir des expériences avec Dieu, mais dont les lèvres déchirent, abaissent, sont négatives, critiquent et sont amères, n'a pas vu Dieu, le Dieu vivant. Parce que lorsque tu vois le Dieu vivant, quelque chose en toi qui monte, tu dis, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, je suis un homme, je veux répondre à ton appel, mais j'ai besoin de la communion de l'Esprit. Viens toucher mes lèvres. Et il prit une flamme comme de l'autel de Dieu. Et il toucha mes lèvres avec une braise de l'autel de Dieu. C'est ce qu'on prie ensemble ce matin, c'est ce que je veux vous défier. Entrer dans cette dimension. Pouvez-vous imaginer la révolution qui prendrait place dans ton couple, dans ton mariage, dans tes enfants, dans ta famille, dans l'Église Nouvelle Vie, dans les églises, dans les milliers et dizaines de milliers qui suivent ce message par Facebook. Si chacun disait, Seigneur, j'ai besoin de cette braise de ton esprit. Je veux communiquer selon ton esprit. Peux-tu imaginer ce qui arriverait à tes journées si à chaque jour, avant de parler à qui que ce soit d'autre, tu parlais à Dieu et tu disais, aujourd'hui, aide-moi. Aujourd'hui, donne-moi, aujourd'hui, touche mes lèvres. Ésaïe qui avait dit, mes lèvres sont impures, il n'est pas parfait. Mais il écrit un peu plus tard, le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. Il m'a appris pour que je sache soutenir par la parole celui ou celle qui est abattu. À tous ceux qui rencontrent des gens en difficulté, à tous ceux qui sont dans les petits groupes, à tous ceux qui servent dans les différents ministères de l'Église, à nous qui avons des gens dans nos familles qui sont abattus par une chose ou l'autre. On vient que je ne sais même pas comment, je ne sais même pas quoi dire. Esprit de Dieu, viens me donner les paroles, viens guider mes paroles et mes pensées. Donne-moi des paroles de vie que seul toi peux me donner. Là, Ésaïe dit, j'avais les lèvres impures, mais il m'a appris. Il a éveillé à chaque matin mon oreille pour que j'écoute. Et que je parle comme un disciple. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille. Je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas retiré en arrière. Les musiciens vont s'approcher. Et vous, et moi, est-ce que je suis prêt à prier cette prière? Je veux parler surnaturellement. Je veux, Seigneur, mon œil n'a pas vu, mon oreille ne peut pas entendre les paroles que tu voudrais me donner. Ésaïe dit, je ne me suis pas retiré, je n'ai pas fermé mon oreille. Il éveille mon oreille à chaque matin. Il me donne les paroles. Et moi, lorsque je méditais là-dessus, je disais, Seigneur, pourquoi faut que tu éveilles mon oreille aux paroles? C'est non seulement éveiller notre oreille aux paroles aujourd'hui que Dieu va m'appeler à dire que je ne pourrais pas avoir autrement qu'à moins que lui m'y donne. Calme au lieu de colère et encouragement au lieu de déchirer et confiance au lieu de désespoir et pardon au lieu de rancune et apaiser, abaisser. Seigneur, purifie mes lèvres de la vulgarité, des grossièretés, du langage qui est partout autour de moi. Et je veux parler selon ton esprit, des réalités spirituelles, selon ce que mon œil ne voit pas. Mais il éveille mon oreille non seulement à ce qu'il veut que je dise aujourd'hui, mais à chaque matin, si je le laisse. Je ne l'ai pas toujours laissé. Il veut éveiller notre oreille à ce que j'ai dit hier qui n'était pas bien. Que je réalise même pas, que je vois même pas, que je minimise, que pas pour condamner. Mais dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu vient, la communion de l'Esprit. Je veux éveiller. Ésaïe dit, c'est comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça que j'ai appris. J'étais un homme aux lèvres impures. Mais Dieu est venu et à chaque jour, je vais devant lui. C'est jamais terminé, c'est pas quelque chose, pas neuf, mais faites une fois, il y a toujours de nouvelles situations, toujours de nouvelles choses. Mais je viens devant Dieu, il vient et il me donne les paroles pour soutenir. Pour encourager, pour fortifier. Et aussi, le Seigneur m'éveille, il éveille mon oreille à des paroles qu'il veut que je donne, mais aussi à des choses que j'ai dit hier, ou que j'ai dit hier, ou l'année passée. Et Seigneur, je te demande pardon. Et il me rend sensible même à aller réparer, à aller dire, hier, j'ai dit ceci. C'est quelque chose qui m'arrive régulièrement. J'ai parlé avec quelqu'un récemment, puis le lendemain, je parlais, je dis, écoute, quand on a parlé de ça hier, tu as dit ça, puis j'ai répondu comme ça, puis ça, c'est moi. C'est pas selon le cœur de Dieu, là, ce que j'ai dit. Là, je t'ai demandé pardon. Non, c'est pas grave. Non, je t'ai demandé pardon pour ça. Et aussi éveiller notre oreille, notre cœur aux opportunités divines, aux personnes que Dieu va placer. Il me donne une parole pour soutenir la personne qui est abattue. Les personnes qui sont abattues ne portent pas une pancarte dans le front, je suis abattu. Ils peuvent vous côtoyer, vous brosser, passer à côté de vous à tous les jours sans que vous les voyez. Je vais faire une confession. Moi, je suis un communicateur public. Et c'est inhérent à... Ça fait partie de quelqu'un qui prépare beaucoup de... C'est ma personnalité d'étudier, de préparer, de penser. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis tout le temps en train de penser. Hein. Alors, ça fait de moi quelqu'un qui est dans sa bulle. Moi, si j'ai passé... Tout le monde a une histoire comme ça avec moi. Je m'en vais à Longueuil en auto et vous avez fait des babayes. Vous êtes presque jeté sur le camion. J'ai rien vu. C'est dans ma tête. Et puis, soyez pas offensés. Je suis en train de... Je suis quelqu'un de comme ça. Ben, les gens penseraient pas ça. Mon épouse est là, va le témoigner. Moi, je suis quelqu'un de timide dans certains cercles. Moi, les 5 à 7, tout ça, là, je vais mourir. C'est pas moi, là, tu sais. Et je suis beaucoup dans ma tête, beaucoup dans mes affaires. Puis je passe ma vie à parler, alors souvent, et tout ça pour dire que je crois que je manque énormément de rendez-vous de Dieu. Rendez-vous avec des personnes que Dieu nous fait côtoyer. Récemment, nous étions en vacances, ensemble, avec un autre couple, et puis il y a une dame qui était là, un peu la directrice des programmes là-bas. Je dirais pas ni l'hôtel ni le pays, là, je ne veux pas l'identifier, on est sur Facebook Live. Mais la dame était super gentille, puis elle a l'air on top of the world, puis mon épouse et l'épouse de mon ami qui était là, il parlait avec elle, puis j'osais avec elle, bonjour, bonjour, les autres parlaient beaucoup avec elle, puis tout ça. Et à un moment donné, elle a dit, écoutez, on veut vous... On aimerait ça, on a un souper spécial, le souper du chef, et puis c'est le soir où on réunit 40 personnes qui ne se connaissent pas de l'hôtel, puis on les met ensemble. C'est vraiment un honneur, c'est un souper gastronomique, on aimerait ça tellement que vous soyez là, vous êtes presque les seuls francophones ici à l'hôtel. Et là, ma femme dit « Oh, ça va être le fun, tout le monde, wow, moi je suis là, oh, je veux mourir, comment? » J'ai dit à mon ami, je peux-tu payer pour pas y aller? Je suis juste, tu sais, bon, ben, vous pouvez me juger. Alors, mais je suis assis là. Et puis, la dame se promène et tout à coup, elle vient s'asseoir au bout de la table avec moi, Chantal et nos amis. Et en quelques minutes, elle déverse sa vie sur la table. Je traverse ceci, je traverse ça. Bon, il parle du Seigneur, comment ça va? Et là, moi, là, je suis intéressé. Là. Okay. On parle de Dieu, on parle, ah oui, ça, il retourne, puis il revient. Puis là, le reste du voyage, les filles parlent, etc., etc. On dit, écoute, Chantal a un livre de Stéphanie, on va vous donner un livre en cadeau, puis on a appris des choses par d'autres personnes aussi, puis elle avait des besoins, on se ramasse ensemble, puis on va faire un cadeau. Puis on va... Et à la fin, il y a un lien, là, c'est personne d'une étrangère, là, une personne qui... Et la semaine dernière, ou cette semaine, on a reçu ce courriel d'elle. Chers amis, et parle aux quatre, je voulais profondément et sincèrement vous remercier pour votre gentillesse, le beau cadeau que vous m'avez donné, le livre magnifique que Chantal m'a offert. Je le lis à chaque soir. Alors que je traverse cette épreuve et que ces décisions déterminantes dont je vous ai parlé approchent, le livre de Mme Stéphanie me donne des forces, alors que parfois les craintes prennent presque le dessus sur moi. Merci d'être qui vous êtes, chacun de vous, et je me sentais, je ne suis pas tellement. Vous avez maintenant une place très précieuse dans mon cœur et je suis heureuse que Dieu vous ait placé comme des anges sur mon chemin pour me communiquer par vos paroles de force, du courage, vos paroles des forces, du courage, de l'espoir et aussi une foi nouvelle. Je remercie Dieu maintenant et je lui demande de vous bénir pour tout le bien que vous m'avez fait. Lots of love, you are the fabulous four. Vous êtes les fabuleux, les quatre fabuleux. Et lorsque on a reçu ce courriel-là cette semaine, on y prépare d'autres choses qu'on va y envoyer. Puis tout un, et on va regarder, moi je vais avoir une adresse d'église qu'on a confiance tout près d'elle, dans sa ville et tout ça. Mais il y avait un frémissement dans mon esprit, puis en même temps un espoir en moi. Seigneur, je suis Isaïe, je suis un homme aux lames impures. Je manque des rendez-vous. Parfois, je fais du mal par mes paroles, puis parfois, je pourrais faire du bien, je ne le fais pas. Mais mon œil n'a pas vu, mon oreille ne peut pas entendre ce que tu voudrais que je sois et que je dise et comment tu voudrais que je communique. Mais je le peux par ton esprit. Ton esprit peut venir toucher mes lèvres avec une flamme de ton autel à chaque jour. Je veux communiquer selon ton cœur. Je veux être un homme selon le cœur de Dieu qui voit comme Dieu voit et qui parle comme Dieu parle. Et Dieu ne refusera jamais un cœur qui s'offre à lui. J'ai une vision de chacun. Je vous le dis, laissez faire les stratégies de toutes les sortes, puis les 15 livres de croissance d'Église. Si les 4 000 chrétiens et plus de l'Église Nouvelle Vie priaient ceci à tous les matins, cette Église doublerait et triplerait parce que Dieu placerait des gens sur notre chemin qui sont déjà là, qu'on ne voyait pas. Des familles seraient restaurées, des couples reviendraient ensemble, des communications seraient restaurées. Dieu veut le faire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer dans le nom de Jésus. Et l'Église Nouvelle Vie dit Amen et Amen.